Vous écoutez Parlons Éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierrard, Wilfried Edzoa à la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Éducation, Parlons Éducation. Bonjour Bernard.
Bonjour Patrick, j'espère que ça va bien.
Ah, je vais très bien, ce dimanche un peu grisounet.
Ah, on en a eu plusieurs quand même là.
Ben oui, exactement, on est dû pour autre chose, n'est-ce pas?
Ou bien on en est habitué maintenant.
L'un ou l'autre.
L'un ou l'autre.
Alors, c'est pas ça qui va nous miner le moral. Hein. On a un beau menu pour nos auditeurs et nos auditrices. De quoi allons-nous parler aujourd'hui dans nos grands sujets?
Alors, nous avons toujours nos actualités de la semaine dans le domaine de l'éducation. Alors, on a quand même deux, trois éléments à partager avec nos auditeurs et auditrices par rapport à ce qui a marqué un peu l'éducation au Québec cette semaine. Et dans nos chroniques, alors la mienne va porter sur un cahier spécial qui a été consacré à M. Guy Rocher, un cahier spécial qui est paru dans Le Devoir à l'occasion de son 100e anniversaire. Alors évidemment, M. Guy Rocher, c'était un artisan important de notre système scolaire quand il fut créé dans la mouvance de la Révolution tranquille. On parle des années 60, début des années 70. Alors, tout à l'heure, je vais entretenir nos auditeurs et nos auditrices avec ce personnage particulier que je vais présenter bien humblement, parce qu'évidemment, on peut dire beaucoup de choses par rapport à cet intellectuel. Mais je vais partager quand même quelques éléments qui m'apparaissent importants avec notre public.
Et cette époque particulière de la Révolution tranquille aussi, hein?
Eh oui, on en a. Alors, ça fera partie du contexte là, que je vais aborder tout à l'heure.
Absolument, ça risque d'être très intéressant. Moi, de mon côté, bien, je vais poursuivre la lecture que j'avais commencée à la dernière émission de l'essai qui s'appelle « La sous-scolarisation des hommes et le choix de profession des femmes » par quatre professeurs de l'Université de Montréal. Et donc, on va regarder un petit peu les causes et les solutions de ces choses-là, dont nous avions un peu dressé le tableau lors de la dernière émission. Donc, ça va être ma partie. Mais bon, on va commencer par les actualités comme il se doit. Alors, Bernard, toi, tu veux nous parler de la contestation de la loi 21?
Oui, en fait, ce qui m'a surpris cette semaine, c'est de voir que la Fédération autonome de l'enseignement, la communément appelée la FAE, se joint à la Commission scolaire English Montreal pour contester certains articles de la loi sur la laïcité qui a fait l'objet de la clause dérogatoire. J'ai compris, d'après ce que j'ai lu, que ce n'est pas tellement le contenu de la loi qu'ils veulent contester, plus que l'utilisation de la clause dérogatoire.
Tout à fait, hein? C'est vraiment ça qui ressort.
Alors, ça, c'est un peu différent, évidemment, de ce que souhaite la
Commission. Il faudrait quand même dire un petit peu ce que c'est, la clause dérogatoire.
La clause dérogatoire, c'est que n'importe quelle province au Canada peut se soustraire à la loi, à ce qui touche les droits de la personne.
La Charte des droits et libertés.
La Charte des droits et libertés.
Canadienne.
Et invoquer cette clause dérogatoire pour une raison qui touche la spécificité d'une décision qui est prise dans une province.
Mais souvent, la clause dérogatoire est invoquée a posteriori, mais ici, elle était invoquée de manière préventive.
En fait, sans politiser notre discussion de ce matin, c'est une clause qui est utilisée. Bon, alors... les enseignants prétendent, et j'imagine que cette clause-là est utilisée d'une mauvaise manière, ce que prétendent aussi certains politiciens, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Moi, ce que je voulais surtout souligner, c'est que j'étais surpris de voir qu'un syndicat de l'enseignement puisse, après un automne puis un hiver plutôt mouvementé pour défendre leurs conditions de travail, puisse trouver des sous pour pouvoir défendre cette position-là, parce qu'on sait que ça coûte de l'argent, évidemment. Alors, puis je me demandais aussi, est-ce que c'est le rôle d'un syndicat de se présenter comme étant un défenseur, à la limite de décisions qui sont politiques? Alors ça, je t'avouerais que j'étais un petit peu embêté. D'ailleurs, il y a eu plusieurs réactions. Monsieur Barillageon, dans Le Devoir, cette semaine, était aussi surpris de voir comment au Québec, on puisse, principalement les enseignants, qui sont censés être les gardiens de la liberté, puissent utiliser des moyens comme ça pour aller en cours. Et bon, alors c'est particulier, c'est un dossier à suivre. Peut-être que les lectures qu'on fait actuellement ne sont pas complètes, peut-être qu'on connaît mal les intentions, peut-être que c'est justifié aussi, là. Alors,
c'est sûr qu'il y a un côté éminemment politique là-dedans, hein, clairement. Alors bon, on peut se demander si un syndicat d'enseignants a sa place dans un débat politique. Parce que le fond politique de la chose est très important quand même. Hein. Il y a quand même un précédent là qui ouvre la porte à d'autres décisions de ce genre qui ne sont pas souhaitables.
En fait, je pense que cette démarche-là peut-être nous sort de notre zone de confort traditionnelle, puis on va voir comment se déroule cette contestation. Puis bon, puis peut-être qu'il y a des éléments qui étaient intéressants. Je ne le sais pas, en fait. Mais moi, ce que je peux dire à ce moment-ci, c'est quelque chose qui m'a surpris, ayant passé ma carrière en éducation. Et surtout, connaissant l'année quand même assez mouvementée qu'a connue la FAE au niveau des conditions de travail, puis connaissant aussi le contexte qui n'était pas toujours très positif, je pense, quand ils ont réglé les conditions de travail des enseignants. Je pense qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction. Alors, il y a peut-être des éléments là qui nous manquent.
Puis certainement. Par contre, je pense que c'est bon de se questionner sur quel est le désir des membres versus quel est le désir des instances, par exemple.
Alors, peut-être qu'éventuellement, ça serait intéressant qu'on invite un enseignant de la FAE, puis ou un représentant, puis qui nous explique un petit peu plus le format
de cette démarche. En effet, ça serait certainement intéressant.
Alors, je m'engage à faire quelques démarches pour voir comment on peut mieux comprendre, parce qu'évidemment, nous, on est là pour comprendre les initiatives qui sont faites dans le monde de l'éducation. Alors, c'était mon premier élément dont je voulais parler aujourd'hui.
Bon, ben c'est très bien. Alors moi, de mon côté, ce qui a retenu mon attention, c'est que plusieurs articles ont souligné que actuellement, il y a beaucoup d'absences chroniques dans les écoles pour un nombre important d'élèves donc qui s'absentent de l'école. On parle de 10 % sinon plus, qui ne fréquentent pas l'école sur une base régulière. Bon, il y a beaucoup de problèmes des jeunes qui refusent d'aller à l'école, les parents qui manquent de moyens pour travailler ça avec leurs jeunes, les parents qui sont résignés parfois. Parfois au primaire, des enfants qui fréquentent l'école juste 3-4 jours par semaine, des choses comme ça, on a vu, des voyages, hein, on en a déjà parlé, des voyages.
Oui, des voyages qui sont souvent collés à la semaine de relâche.
C'est ça, les voyages souvent dans le sud d'une part, mais aussi les voyages dans les pays d'origine aussi, pendant l'année scolaire, c'est des choses qu'on voit. Bon, une certaine aussi attitude négative des jeunes face à l'école, de certains jeunes face à l'école qui n'ont pas le sentiment nécessairement d'être à leur place à l'école, d'être bien accueillis à l'école. Beaucoup de problèmes de santé mentale aussi qu'on retrouve chez les jeunes, angoisse, anxiété, crise de panique. Bon, la santé mentale en général des jeunes, de certains jeunes, est vacillante, hein, faut bien le dire. Et bon, tout ce qui s'est passé avec la pandémie, avec les grèves, etc., ça a poussé un peu les choses de ce côté-là. Excusez-moi.
Ah oui, alors, question intéressante.
Je m'excuse. D'habitude, je ferme toujours mon téléphone.
Il n'y a pas de problème.
Ça n'a pas été fait.
Mais il y a quand même la position de M. Gilles Julien,
oui.
Là, qui a fait un texte aussi dans le Libre Opinion, dans Le Devoir, qui fait référence au fait aussi qu'avec le travail à la maison, hein, avec le télétravail, de plus en plus de parents restent à la maison. Et évidemment, ben, on est toujours dans le même paradigme que les enfants finissent par faire un peu ce que les parents font. Alors, beaucoup de jeunes, principalement des adolescents, pensent qu'ils peuvent eux aussi demeurer à la maison. Et
faire du télétravail.
Et faire du télé-études. En fait, c'est pas anodin parce que on a quand même, pendant la pandémie, fait en sorte que beaucoup de jeunes, puis principalement des ados, puis des jeunes de 15, 16, 17 ans, on leur a demandé de demeurer à la maison. On leur a demandé dans le sens que, bon, on n'avait pas le choix, mais on les a obligés. Et peut-être qu'il y a certains d'entre eux qui ont trouvé cette formule-là intéressante. Et selon M. Julien, ben, il y a comme un élément qui peut peut-être expliquer ce dont tu parlais tout à l'heure.
Mais c'est sûr qu'actuellement, les études ne sont pas faites pour être suivies à domicile. Donc, il y a comme un petit problème. Puis il y a quand même une question fondamentale, je pense qu'il faut se poser. Est-ce que l'école est intéressante? Est-ce que l'école est stimulante? Est-ce qu'on pourrait faire des efforts de ce côté-là pour justement retenir plus de jeunes? Alors, ça fait partie, je pense, des hypothèses de solutions face à ce problème de l'absentéisme qui prend quand même une certaine ampleur.
Je te dirais que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on garde pour l'avenir parce que c'est des modèles, d'apprentissage qui peuvent évoluer avec le temps. Bon, la société change, les jeunes changent eux-mêmes, les technologies changent aussi. Alors, écoute, on va suivre ça de près. On aura sûrement l'occasion d'en replacoter.
Prenons le temps d'aller faire un tour aux toilettes.
Oui, prenons le temps d'aller faire un tour aux toilettes. Alors, cette semaine, évidemment, il y a M. Drainville qui a décidé d'abolir les toilettes mixtes. Alors, ça, évidemment, c'est toujours des décisions qui sont...
Pas de les abolir, de les interdire.
Les interdire, ça, c'est des décisions qui sont grand public, qui passent presque inaperçus dans l'imaginaire collectif, mais qui sont questionnables dans le sens que, faut se souvenir que le gouvernement du Québec a créé un comité de sages
pour faire
des recommandations au ministre lui-même, d'ailleurs, quant à cette nouvelle réalité dans nos écoles qui est la différenciation sexuelle entre les transgenres, les élèves non-binaires. Bon. Alors, c'est sûr que ça vient influencer la vie des jeunes dans nos écoles et principalement les jeunes dans la phase de puberté parce que ça se présente d'une manière différente quand on est au cégep et à l'université compte tenu de l'âge. Maintenant, quand on est dans la phase de l'adolescence, il y a tellement de questionnements. Alors, j'imagine que le comité des sages s'intéresse particulièrement à ce phénomène-là et à tout ce qui entoure et les impacts chez les jeunes eux-mêmes. Et là, le ministre arrive. Bon.
Mais c'est le sage entre les sages.
C'est le sage. On peut voir ça comme ça. Mais c'est quand même surprenant qu'on crée un comité de sages. Peut-être que ça avait été mal expliqué, ce comité de sages-là. Oui. Peut-être qu'on n'attendait pas des recommandations si scientifiques.
Si pointues,
je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, est-ce qu'il y avait une urgence à ce moment-ci de faire pareille déclaration alors que dans l'opinion publique, on a voulu rassurer les gens en leur disant qu'il y avait un comité de sages. Et là, tout d'un coup, il y a un sage qui émane comme ça.
Voilà.
Et se distingue du comité. Alors, nous, on fait beaucoup d'humour avec ça.
Ben oui,
mais
ça nous fait sourire.
Quand on est sur le terrain avec les enfants et les jeunes, comme quand on est enseignant ou direction d'établissement ou travaillant dans un centre de service scolaire, ça peut avoir de l'impact puis principalement auprès des jeunes eux-mêmes, puis auprès de leurs parents. Bon, nous, on le traite un petit peu avec la légèreté.
Oui, c'est vrai.
Mais quand même...
Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de sérieux derrière un sujet comme celui-là, par
rapport à ça, parce que c'est un enjeu, ça, la fréquentation des toilettes dans des établissements. C'est un enjeu important qui crée parfois des malaises importants aussi pour les jeunes qui sont confrontés à ce type de défi-là.
Tout à fait.
Mais bon... M. Drainville s'est avancé, puis on va vivre avec. Là. Alors, c'est toujours agréable quand même. Et si on a le temps, j'aurai peut-être une dernière petite réalité.
Ça va être juste.
Oui, parfait.
Moi, j'ai une petite annonce à faire rapidement. Mercredi, le 8 mai prochain, plus de 4000 adolescentes se rejoindront au Parc Maisonneuve dès 9 h pour participer à des activités physiques variées afin de célébrer le plaisir d'être active et de demeurer en santé. Ça, c'est un organisme qui s'appelle FIACTIVE qui organise ces manifestations-là. Il y en a un peu partout au Québec, mais ici à Montréal, donc au Parc Maisonneuve, mercredi. C'est vraiment un organisme sans but lucratif qui est basé au Québec, dont la mission est d'amener les adolescentes à être actives pour la vie en offrant des outils, des ressources destinées aux écoles qui accueillent ces jeunes filles de 12 à 17 ans. Et donc, c'est 4000 d'entre elles qui vont venir au Parc Maisonneuve. Il va y avoir des modèles féminins inspirants qui vont être là. Kim Gingras, qui est une danseuse professionnelle et chorégraphe. Annie Guglia, une skateboardeuse. Amy Walsh, une conseillère au programme féminin de l'Académie du CF Montréal. Donc, il va y avoir plein de monde. Ça commence à 9h. Il y aura un grand rassemblement, un grand échauffement de ces 4000. Ensuite, des courses par vague et beaucoup d'activités durant toute cette matinée jusqu'à 13h30. Alors, un bel événement auquel, j'imagine, on peut encore s'inscrire. On peut se joindre certainement pour l'activité physique, les bienfaits de l'activité physique chez les jeunes filles et chez tous les jeunes en général.
Bon, alors, un autre sujet intéressant qui fait état de toutes les belles initiatives qui sont réalisées. Absolument. Alors, j'ai une minute pour présenter...
Minute, pas plus?
Alors oui, pas plus. Alors, hier, dans le Devoir, que je lis de façon régulière, il y avait un article qui était de M. Philippe Lorange. Alors, M. Lorange faisait état de l'élève calme et vaillant, ce grand oublié. Alors, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil, mais je résume. C'est sûr qu'avec l'inclusion des élèves en difficulté dans les classes régulières, bien, à contre-courant peut-être, M. Lorange faisait état que les élèves qui sont vaillants et calmes finissent par vivre les impacts de l'inclusion des élèves qui sont en difficulté. Et d'une certaine manière, ça m'a fait penser, Patrick, que dans la vie, on inclut beaucoup de monde, mais c'est rare que la majorité silencieuse est toujours... on pense que la majorité silencieuse finit par tout accepter. Alors, il dit, bon, ben, faut juste faire attention qu'il y a des élèves qui parlent pas beaucoup, qui sont calmes et vaillants, qui font leur travail et qui vivent les impacts de toutes nos décisions. Alors, évidemment, c'est un petit peu à contre-courant, mais je voulais quand même le dire qu'il y a des idées qui sont différentes dans les médias.
Merci. Sur ce, une petite pause musicale et on passe à la première chronique.
Merci.
Alors, on est de retour et donc, tel que prévu, je vais vous parler de l'essai que j'ai lu dernièrement pour vous qui s'appelle « La sous-scolarisation des hommes et le choix des professions des femmes » par Robert Lacroix, Catherine Hack, Claude Montmarquette et Richard Tremblay qui est paru en 2023 aux presses de l'Université de Montréal. Un essai que je vous recommande. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. On en a parlé la dernière émission déjà. On avait identifié le fait que les hommes étaient moins scolarisés, donc moins diplômés à l'université que les femmes. Et on avait essayé de voir un petit peu pourquoi cet état de fait. Et on s'était posé la question également, est-ce qu'il y a des conséquences à la sous-scolarisation des hommes, hein? Et on s'était dit que, bon, en effet, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conséquences parce qu'on ne porte pas trop attention à ça, parce que le taux d'activité des hommes est toujours supérieur à celui des femmes dans la société, hein? Les hommes travaillent, il n'y a pas de problème, leur chômage le taux de chômage est plus faible. Leur rémunération est plus élevée,
oui,
encore aujourd'hui.
Dépendamment de certains secteurs, évidemment.
Tout à fait, mais même pour des emplois identiques, les hommes gagnent encore parfois plus que les femmes. Leur pouvoir économique et politique reste grand, dans la société, aux hommes en général, et leur niveau de richesse est plus haut que celui des femmes. Donc, pour ces raisons-là, on n'y porte pas trop attention. Par contre, est-ce qu'il faut s'en préoccuper de cette sous-scolarisation? Ben, les auteurs répondent oui, parce que ça, d'une part, collectivement, ça diminue le potentiel de croissance de nos économies à long terme. Il va y avoir des contre-coups là-dessus. Mais surtout, c'est le bien-être des individus en société. Le fait de se réaliser par l'éducation comme être humain, de s'insérer dans la vie, dans la société, d'être soi-même. Et le fait de ne pas pouvoir développer son plein potentiel, ben, ça peut causer des problèmes. On pourrait citer certains exemples, mais on ne fera pas ça ce matin. Mais il y a quand même... au niveau de la délinquance, au niveau de certains mouvements, on voit que certains hommes sont à la recherche de réponses, disons ça comme ça. Mm-hmm. Et voilà. Donc, c'était les raisons et pourquoi on s'intéresse à ça. Et évidemment, tout ça est développé dans l'essai longuement et d'une manière très, très claire aussi, basée sur des recherches essentiellement... des recherches importantes qui ont été faites soit par les auteurs, soit par d'autres personnes qui sont colligées à l'intérieur de ça. Et aujourd'hui, dans le fond, je commencerai par nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la diplomation des hommes au postsecondaire, au cégep évidemment, puis à l'université. Si vous en souvenez, on avait parlé que dès la grossesse, il y avait des différences entre les garçons et les filles. Dans les conséquences de certaines choses, comme on parle de déficience nutritionnelle, maladie, pollution, consommation de drogue et d'alcool pendant la grossesse, ont des conséquences négatives en général sur l'enfant à long terme. Hein. Mais les garçons sont plus vulnérables que les filles à ce sujet-là.
Ah bon?
Alors donc là, on est quand même dans quelque chose d'important. Et donc, les interventions prénatales sont importantes. Encore une fois, en général, parce que tout ce qui bénéficie aux garçons bénéficie aux filles également. Mm-hmm. Hein, mais les interventions prénatales sont importantes. Ça contribue à réduire les écarts. Il en va de même pour les mères. Hein, plus la mère a un niveau d'éducation élevé, moins les enfants ont des problèmes de développement pendant la grossesse et après.
Oui, ça, on a quand même documenté ça beaucoup.
Absolument.
Dans tous les dossiers qui touchent la persévérance scolaire. On savait très bien que la mère, sa scolarisation avait un impact positif sur la manière
c'est,
que...
C'est d'ailleurs un des critères
comment
on appelle ça, de 10 de défavorisation.
Exact,
voilà,
oui,
exactement.
Oui. Ben, dans le passé, je ne sais pas si
c'est encore... Peut-être c'est plus
peut-être que c'est plus factuel.
Tout à fait. Mais donc, ça nous dit que l'éducation des filles qui peuvent avoir des difficultés scolaires devrait être une priorité. Mm-hmm. Tu sais, donc, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder. Dans cette optique de grossesse et d'éducation. Les enfants des milieux vulnérables, hein, on revient à ça, c'est toujours la même chose, mais c'est important. Augmenter l'accessibilité des CPE pour les milieux défavorisés serait vraiment une piste de travail très, très, très importante.
Toujours pour les garçons?
Oui, pour les garçons, mais pour tout le monde.
Oui,
hein,
okay.
Mais
et
oui,
ça aurait un impact positif
absolument,
pour les garçons,
absolument,
encore plus.
Absolument. Même chose pour les programmes de soutien pour l'achat d'aliments, hein, d'aliments sains pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Tu sais, ça, il n'y a pas ça au Québec. Il y a eu ça dans plusieurs pays du monde, aux États-Unis particulièrement. Et ça a vraiment démontré des résultats extrêmement intéressants pour les enfants. Pardon. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on pourrait faire. C'est des pistes de solutions. L'importance d'investir dans le capital humain, offrir des programmes enrichis pour les enfants plus vulnérables à l'école, hein, particulièrement dans les milieux moins favorisés, et travailler aussi sur les pratiques parentales, hein, parce que tout à l'heure, quand je parlais des absences, on signalait que plusieurs parents sont démunis face au refus de leur enfant d'aller à l'école, par exemple. Évidemment, épauler les parents ne peut avoir que des conséquences favorables.
C'est sûr.
Grosso modo. Et là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Si on pense aux enfants qui présentent des difficultés, bien, qu'il y ait un dépistage systématique dès la maternelle, ça se fait. Hein. mais ça pourrait se faire encore plus précisément et orienter les enfants vers les services dont ils ont besoin.
À condition que les services soient disponibles, évidemment.
Évidemment, évidemment. C'est sûr que c'est l'enjeu est là.
Ça, évidemment, c'est des orientations qui sont intéressantes, mais évidemment, quand on en arrive dans l'application, il peut y avoir des défis.
Là. Tout à fait, tout à fait. Puis ce que les auteurs disent aussi, c'est que l'ajout de services pour les enfants en difficulté ne devrait pas nécessairement être permanent, mais ajusté aux besoins des enfants au fil du temps. Mm-hmm. Donc, on pourrait avoir des services à un certain moment, puis les donner à d'autres après, ouais. Que ce ne soit pas quelque chose mur à mur.
Comme une forme de modulation des services.
Et voilà, et voilà. Et aussi retarder la médicalisation des problèmes d'attention, ouais, notamment, dont on a parlé la dernière fois, le fameux Ritalin.
Oui.
Même chose, les pratiques d'apprentissage efficaces. Évidemment, c'est déjà dans les écoles actuellement, mais poursuivre ce développement-là pour que ces pratiques soient vraiment partout dans toutes les écoles.
Je ne sais pas, Patrick, où on en est rendu par rapport à ça, dans les dernières négociations, quand on a regardé les conditions de travail des enseignants, il y avait plusieurs enseignants qui ont pris position sur le fait qu'au Québec, on met de plus en plus l'accent sur la performance, sur les notes, alors qu'on devrait se recentrer un peu plus sur le développement de la personne. Il y a toute la mission de l'école qui tourne autour de ça. Il y a comme, je dirais qu'il n'y a comme pas un consensus encore si fort que ça par rapport au, bon, toi tu fais référence aux données de la science, j'imagine.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Je te dirais qu'il y a encore des hésitations. Puis même parmi certains intellectuels qu'on a déjà interviewés, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui pense que, on est influencé par l'approche économique de l'éducation et on est en train de laisser un petit peu l'approche qui visait davantage le développement humain. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est les données de réussite.
Et, exactement.
Bon, puis que les données qui touche la pensée, le développement de l'esprit critique, l'intégration dans la société, le développement intégral d'une personne.
Tout à fait.
On dirait que ça, il y a comme...
C'est un peu mis de côté.
Pour certains intellectuels, en tout cas, il y a une crainte. Puis
on dirait plus qu'une crainte. Hein. Ça a été beaucoup soulevé, notamment dans les forums.
Oui, c'est vrai.
Mais on a participé.
Je ne sais pas comment ça va évoluer au fil du temps, cette dichotomie du rôle et de la mission de l'école.
Tout à fait, tout à fait. Rendre l'école intéressante puis la rendre efficace dans l'apprentissage plus que dans la réussite.
Oui, c'est exact.
Les deux allant de pair, mais l'apprentissage pour tous.
C'est comme si maintenant on avait décidé d'évaluer la réussite. Hein. Alors,
c'est ça.
Alors, bon.
Les critères sont quand même assez restrictifs, mettons.
Bien, en fait. On n'a pas découvert d'autre chose de ce que nous avons maintenant.
C'est ça, exactement.
Enfin, je te laisse aller.
C'est important. Puis, dans les pratiques pédagogiques, on pense que l'Institut national d'excellence en éducation pourrait être un bon vecteur pour ça, là, vraiment pour élargir les pratiques pédagogiques gagnantes.
Mais je ne te cacherai pas qu'avec ce qu'on a vu à venir jusqu'à date, l'Institut d'excellence va s'appuyer beaucoup sur les données probantes.
Oui.
Et les données probantes sont issues de la recherche appliquée. Et la recherche appliquée, c'est quantifié. Hein? C'est des statistiques. Alors, j'espère qu'ils vont être vigilants sur certains autres aspects de l'excellence.
Clairement.
Et notamment, il y a le développement de chaque individu.
Absolument. Pour continuer, on parle aussi de la taille des classes. Hein, est-ce que, il faut avoir beaucoup d'élèves, moins d'élèves, etc. Bon, on a baissé la taille des classes au début des années 2000. Mais ce que les auteurs proposent, c'est que ce soit une approche plus ciblée, plus différenciée, qui pourrait permettre, dans certaines circonstances, et pour certains enfants, d'avoir des plus petits groupes revus chaque année, qui pourraient même varier d'une matière à l'autre, avec beaucoup, beaucoup de souplesse. Là. Bon, je lis dans ton visage, Bernard, pas besoin d'intervenir.
Mais la souplesse...
J'ai eu la même réaction que toi, parce qu'on est toujours dans le mur à mur en éducation. Ça prend des normes, ça prend des encadrements, c'est vrai. Maintenant, La souplesse, bon, on sait que c'est un grand débat, notamment en santé. En éducation aussi, ça risque d'être un grand débat.
C'est un défi perpétuel, la souplesse.
Absolument, absolument. On va, juste un petit dernier point, puis on terminera après la pause publicitaire, parce que le temps file. Il y a aussi des programmes de soutien aux garçons en maternelle, pour les garçons qui ont des problèmes de comportement. Ça aussi, il y a des expériences qui ont eu lieu, qui ont vraiment donné des résultats intéressants, qui ont permis justement de corriger...
Un exemple, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que un garçon puisse se sentir... valoriser ou qu'un garçon puisse régler ses problèmes de comportement, comme tu viens de le dire.
Ben oui, tout à fait. Mais c'est qu'il existe des façons de faire, mais pas nécessairement au Québec, mais
dans le monde occidental.
Disons ça comme ça. Aux États-Unis, souvent, ou dans l'OCDE en général, dans les pays de l'OCDE, il y a des choses qui ont été faites là et qui ont eu des incidences très positives pour le futur. Parce qu'un enfant qui arrive à la maternelle avec un problème de comportement, on peut comprendre que ça peut hypothéquer ces moments extrêmement importants de l'apprentissage de la lecture, etc. Et donc, on va faire une petite pause publicitaire et on vous revient après dans quelques instants.
CIBL, au cœur de la culture.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Il y a une maudite!
Tu viens-tu te foncer dans le porte-patio où il était?
Mais non!
Voyons, je t'ai vu.
C'est mon émission, vous commencez.
Voyons donc, Gaëtan, c'est un annonce, c'est le mercredi du...
Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL.
CIBL.
Le père du printemps, c'est moi. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Sur fond de hip-hop, chaque mardi de 19h à 20h sur CIBL 101.5.
CIBL 101.5, Montréal. CIBL 101.5, Montréal.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Parlons Éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, à la mise en onde Wilfred Edzoa. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à l'adresse suivante parlonseducation en un seul mot @hotmail.com. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, la réponse à la question de la semaine aussi. On aime bien vous lire. Si vous voulez nous réécouter, c'est sur le site de CIBL 101.5, www.cibl1015.ca. Et c'est aussi là que vous pourrez entendre parler du bingo qui va avoir lieu à 13h aujourd'hui, comme tous les dimanches. Vous pouvez gagner des belles sommes, en plus de vous amuser et de contribuer à une œuvre importante qui est la radio communautaire de CIBL, qui nous prête gracieusement ses ondes pour vous parler d'éducation aujourd'hui et tous les autres dimanches. Alors, moi, je vais juste continuer un petit peu,
oui,
Bernard,
pas de
si tu permets, dans permets. Mon sujet, parce que c'est un gros sujet, mais un grand sujet, absolument, absolument. Et donc, on parlait de problèmes de comportement des enfants. On parle d'activité physique aussi. Les auteurs suggèrent qu'on augmente l'activité physique. Bon, l'activité physique est un vecteur de santé de santé physique, mais aussi de santé mentale. Et donc, on ne peut que souhaiter voir une place plus importante pour l'activité physique. Les parents, évidemment, on a déjà touché un petit mot tout à l'heure des mamans, mais les parents en général devraient continuer à être des collaborateurs pour l'école. Hein. La relation parents-école devrait vraiment être une relation non conflictuelle où les parents, justement, montrent l'exemple aux enfants de l'importance que l'école revêt à leurs
yeux. On en a beaucoup parlé de ça.
Tout à fait, c'est un sujet très, très, très important dans l'absentéisme tout à l'heure, etc. Il parle également des ponts entre le milieu de la santé et de l'éducation pour que des spécialistes de la santé puissent intervenir dans les milieux de l'éducation pour aider justement les enfants à régler certains besoins, etc., plutôt que d'assigner des tâches supplémentaires aux enseignants. C'est ce qu'on a souvent tendance à faire quand il y a un problème qui est identifié. On va dire, ben voilà, maintenant les enseignants vont enseigner ça. Comme exemple, le brossage des dents en maternelle, hein, ça, c'est un sujet particulier. Qui est plus de présence du milieu de la santé dans l'éducation. Les pratiques de mentorat, bon, on a eu plusieurs occasions de les explorer avec la pandémie et également avec les grèves. On sait maintenant quelles sont les pratiques efficaces de mentorat pour les jeunes. Un mentorat qui est fait par des enseignants durant la journée scolaire, fréquemment, hein, si possible durant les heures de classe, hein, pas en temps supplémentaire, offert évidemment par quelqu'un, comme je disais, un enseignant, avec un ratio faible, donc de 1 à 1 à 1 pour 3, mais pas des grands groupes de mentorat, là, parce qu'un grand groupe de mentorat, c'est pas ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose bon, qui existe de plus en plus, mais plus ponctuellement pour répondre à des besoins particuliers comme ceux que j'ai mentionnés, mais qui pourraient vraiment être bien, bien utile pour beaucoup, beaucoup d'enfants. Si on saute tout de suite au cégep, en terminant, là aussi, il y a des choses à faire. L'écart entre les garçons et les filles est important. Les garçons réussissent moins bien au cégep. Ils sont moins nombreux à s'y rendre. Hein. Alors, il y a eu en 2021 un plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur qui compte 19 mesures que je ne connais pas, pas intéressé en détail, mais qui devrait avoir un effet positif sur la réussite de tous les étudiants du cégep, mais des garçons en particulier. Et justement, bon, c'est à voir, cet écart homme-femme de participation. Et bon, on a constaté également que dans les collèges privés et les collèges anglophones, le taux de réussite était plus élevé. On ne sait pas trop pourquoi encore, mais il y a probablement quelque chose à aller voir là-bas. Puis évidemment, le suivi des étudiants en difficulté à la première session au cégep, c'est capital, parce qu'on sait que c'est souvent là que ça se joue. Ça se fait, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs choses qui se font, c'est certain. Mais quand on regarde les statistiques de diplomation, de réussite au cégep, on voit que le taux de réussite après 2 ans pour le préuniversitaire sont très bas, mais même après 4 ans, ils restent assez bas. Il y a certaines difficultés de ce côté-là. Alors, c'est un peu ce qui était proposé par les auteurs de cet essai-là. Donc, je vous rappelle que cet essai-là s'appelle... Un instant... La sous-scolarisation des hommes et le choix de profession des femmes. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment parlé des femmes, mais la dernière fois, on en avait parlé. Donc, je vous invite à lire cet essai-là, qui est écrit par Robert Lacroix, Catherine Hack, Claude Montmarquette et Richard Tremblay, paru en 2023 aux presses de l'Université de Montréal. Alors, si vous voulez aller en profondeur dans ces problématiques-là ou dans ces phénomènes-là, c'est vraiment une lecture intéressante. Et moi, je la suggère fortement à tous les politiciens, à tous les décideurs, parce qu'il y a là des pistes d'action très, très précises et très intéressantes pour justement continuer d'améliorer notre système d'éducation.
Voilà. Alors, c'est bien. Merci beaucoup, Patrick. Alors, on va procéder maintenant.
Bernard, je te passe le flambeau.
Ben, en fait,
parle-nous de Guy Rocher.
Alors, je vais vous parler de M. Guy Rocher, mais évidemment, ça me fait toujours plaisir de répondre à tes questions ou toi-même amener des commentaires.
Évidemment. Donc,
comme je l'avais dit en début d'émission, C'est assez rare qu'un journal comme Le Devoir, puis bon, ça peut être n'importe quel journal aussi, consacre un cahier, tout un cahier à un individu. Puis moi, quand j'ai vu ça, ça m'a impressionné de voir comment M. Guy Rocher, puis il y en a certaines parties de sa carrière, peut-être que j'avais oublié ou que je ne connaissais pas ou que je connaissais mal, mais j'ai été impressionné en feuilletant ce cahier de l'importance que M. Guy Rocher a eue dans le développement, je dirais, de la pensée éducative au Québec, parce que c'était davantage un sociologue. Alors, c'est un sociologue qu'on a baptisé oui. Sociologue de l'éducation, parce que c'est son geste c'est surtout fait sentir dans le domaine de l'éducation, étant lui-même un enseignant aussi de carrière. Alors, ça m'a impressionné, puis c'est pour ça que j'ai pensé partager avec les auditeurs une partie de sa carrière et de l'impact de cette personne qui dans notre réseau de l'éducation, puisque nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'éducation. Je vais débuter toutefois avec un commentaire de Mme Louise Arel concernant M. Rocher. Elle disait, en étant l'un des premiers intellectuels à étudier à l'étranger, alors il faut le faire, là on revient dans les années 40, là, 40 ou 50,
oui,
là, on
revient. Dans,
alors, il faut se souvenir qu'à cette époque, c'était ce qu'on appelle la grande noirceur au Québec, là. Alors, l'éducation, puis la pensée, le développement de la pensée, puis le regard sur la société, là. Je n'étais pas là, remarque bien. Là.
Non,
mais ça n'avait pas l'air d'être très... On n'était pas dans les années-lumière, de toute évidence.
Non, tout à fait. Puis on était aussi dans une élite éducative.
Et une élite anglophone et francophone, minoritaire, avec la présence, évidemment, de l'Église catholique là, auprès de la majorité de la population. Enfin, Mme Arel nous dit qu'en étant l'un des premiers intellectuels à étudier à l'étranger, Guy Rocher a réussi à amener au Québec une vision moderne, progressiste de la société, dégagée des pesanteurs institutionnelles et religieuses de l'époque. Alors, je pense que ça vient bien décrire un peu le contexte de l'intervention de cet acteur qui est important. Je vais t'amener aussi sur une définition de la démocratie qu'il a exprimée. La démocratie, ce n'est pas seulement parlementaire, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est une véritable société démocratique dans ses racines. Son mode de réflexion, sa manière d'agir et qui tend à être la plus égalitaire possible, tout en étant en même temps préoccupé par la liberté. C'est un droit fondamental de penser, de dire, d'écrire ce qu'on veut. Alors,
c'est une définition qui est plus d'actualité que jamais.
Oui,
partout dans le monde.
Puis quand on regarde un petit peu comment on vit au Québec actuellement, je dis Québec parce que ça peut être ailleurs dans le monde aussi.
Tout à fait.
Je veux pas me limiter seulement qu'au Québec, mais quand on regarde comment, de la manière qu'on travaille actuellement au Québec, est-ce qu'on est toujours dans cet esprit-là? Alors, l'introduction de ma chronique étant derrière moi, je veux quand même parler un petit peu de M. Rocher. Patrick, on se reporte dans les années 60. Toi, tu n'étais pas au Québec à ce moment-là.
Non.
Alors, moi, j'y étais. Alors, évidemment, j'étais jeune quand même.
Oui, quand même un peu, hein? Même si tu es plus vieux que moi.
Alors, le Québec fait face à trois défis importants. Alors, les baby boomers, dont je fais partie d'ailleurs, alors il faut se souvenir que la moyenne d'âge au Québec était au début de la vingtaine à ce moment-ci. Là. Alors, il y avait un mouvement, je dirais un mouvement important dans la société, c'est qu'il y avait des jeunes, de plus en plus de jeunes, qui maintenant allaient rentrer dans la société. Alors, les enfants de l'après-guerre, maintenant, étaient en train de devenir des adultes, des jeunes adultes. Alors, ça veut dire que les besoins étaient criants, ils étaient différents, puis ils étaient importants. L'impact des baby-boomers. L'industrialisation. Alors, il faut se souvenir que le Québec, à ce moment-là, était davantage une société qui vivait, la plupart des Québécois vivaient en région, principalement de l'agriculture. Alors, Évidemment, quand est arrivé les années 60, il y a eu l'influence des États-Unis et l'influence aussi du Canada anglais. Alors, il fallait voir comment le Québec allait se moderniser, entre guillemets, par rapport à ce phénomène-là qui était un phénomène mondial, hein, l'industrialisation. Là, on sort de nos pratiques habituelles. Et enfin, l'urbanisation. Alors, dans ces années-là, de plus en plus de jeunes Québécois quittent la campagne et vont vivre en ville parce qu'on sent que l'avenir est dans les villes.
Passe par la ville, oui.
Passe par la ville, mais ça, c'est un phénomène qui était mondial. Je te dirais, c'était pas typique au Québec. Ce qui est particulier au Québec, c'est à cette époque-là, c'était la quantité, évidemment. Puis on avait un rattrapage à faire aussi, le rattrapage au niveau de l'éducation. Les commentaires qu'on a dans ce cahier spécial sont intéressants. On parle de M. Rocher comme étant un intellectuel engagé. Alors, M. Rocher, évidemment, pendant sa carrière, a beaucoup milité pour l'application de la loi 101, par exemple. Alors, quand on regarde ce qui est écrit dans ce cahier-là, il y avait un préjugé favorable par rapport aux Français, de toute évidence. Il y avait aussi un préjugé favorable par rapport à la laïcité, mais je vais revenir un petit peu tout à l'heure sur comment lui définissait la laïcité à l'époque. Alors, évidemment, il s'est lancé avec la commission Parent, qui avait été créée par Paul Gérin-Lajoie, dans la réforme de notre système d'éducation. Cette réforme-là a donné beaucoup de petits bébés. Ben, je ne sais pas si tu es au fait de ça.
Absolument, oui, oui.
Bon, alors les premiers...
Des gros bébés, je dirais même.
Ben oui, c'est ça, des petits bébés à l'époque. Alors, évidemment, il y a eu la création des cégeps.
Exact.
Alors, d'abord, il y a eu la modernisation du parcours des écoles secondaires. Il faut se souvenir qu'au Québec, dans les années 60, c'était le collège classique. Mm-hmm. Maintenant, on a retiré des mains des religieux le système de l'éducation pour en faire l'école. C'est là qu'est née l'école publique, en fait.
L'école polyvalente, entre autres.
Mais l'école publique.
L'école publique en général,
mais
oui.
L'école secondaire polyvalente telle qu'on l'a connue dans ces années-là. Alors ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il y a eu la création des cégeps. Pourquoi la création des cégeps? Ben, ce qu'on dit dans le texte, c'est que M. Rocher et ses acolytes voulaient favoriser l'accès aux études supérieures. Il faut se souvenir qu'au Québec, il n'y avait pas beaucoup d'universités.
Non, puis c'était une minorité de personnes qui accédaient aux études supérieures, justement.
Mais il n'y avait pas beaucoup d'institutions
universitaires.
Oh, oui. Alors, il faut se souvenir qu'il y avait l'Université Laval à Québec.
L'Université de Montréal.
L'Université de Montréal. Puis sûrement qu'il y avait une ou deux universités anglophones. Puis il y avait peut-être l'Université de Sherbrooke. Alors, évidemment, avec le flot de jeunes Québécois qui voulaient avoir accès aux études supérieures, il fallait trouver un parcours, je dirais, un parcours qui ferait en sorte que les jeunes Québécois de l'époque puissent avoir accès à des études supérieures, mais aussi avoir accès à des études supérieures dans leur région. Parce que M. Rocher pensait que le cégep pouvait être aussi un levier pour pouvoir garder les jeunes dans leur région et faire en sorte que ces maisons d'enseignement-là soient des centres de référence pour le développement socio-économique d'une région. C'est une vision assez audacieuse pour l'époque. En fait,
tout à fait.
Créer des cégeps partout au Québec. Et là, évidemment, ça partait de la Gaspésie à aller jusqu'en Outaouais.
Alors, absolument. Et pas juste des cégeps.
Oui, oui, c'est sûr. J'arrive dans la deuxième partie.
Oui, je ne veux pas brûler
non,
tes
non,
poches.
Non, mais il y a eu les universités aussi.
Bien sûr.
Bon. Mais les cégeps, c'était un modèle unique en Amérique du Nord. Parce que
ça l'est toujours.
Oui, ça l'est toujours. Alors, il faut penser que... Dans beaucoup d'États américains ou dans des provinces canadiennes, il y a des collèges, mais ce sont davantage des collèges techniques. La vision que M. Rocher avait à l'époque, c'est de faire en sorte que tous les Québécois qui veulent avoir accès à des études supérieures, incluant le cégep, puissent développer la pensée critique et avoir un parcours scolaire qui vise le développement intégral de la personne. Alors, le développement intégral de la personne, c'est des cours de philo, obligatoire, même quand on voulait devenir technicien en informatique. Alors, il fallait avoir des cours de philo. Et aussi, il fallait avoir développé le concept de la santé. Alors, les cours d'éducation physique, le français. Alors, il y a eu cette approche de rendre obligatoire des éléments que lui avait jugés importants pour pouvoir faire en sorte que non seulement les jeunes se développent sur un parcours intégral, mais puissent enrichir la société parce que ces gens-là, même s'ils n'allaient pas à l'université, pouvaient être des acteurs intéressants dans la société.
Une vision de la réussite très large, comme oui. on en parlait tout à l'heure. Tu sais,
oui. hein?
Diplomation versus développement global
c'est
des
exact.
Jeunes.
Hein? C'est exact.
En plein dedans, hein?
Alors, c'était audacieux à l'époque. Puis c'était aussi audacieux dans le sens qu'en termes de quantité et de qualité, parce qu'il fallait trouver des enseignants.
Ah ben oui.
Alors, moi, je me souviens, Patrick, que quand je suis rentré au cégep, mon prof de philo avait 3 ans de différence avec moi, là. Alors, il y a eu une formation accélérée d'enseignants pour répondre à ce besoin-là, parce qu'on créait des nouvelles structures d'éducation. Bon, ça, c'est le premier morceau. Le deuxième morceau, évidemment, c'est la création du réseau des universités du Québec.
Ah oui, ah oui.
Alors, ça aussi, c'était très novateur. D'ailleurs, c'est tellement novateur que c'est encore comme ça aujourd'hui. Quand on regarde l'Université du Québec, à Chicoutimi, bien, on devrait dire à Saguenay aujourd'hui, mais à Chicoutimi...
Ça s'appelle toujours l'UQAC.
Oui, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université du Québec à l'Abitibi. Alors, il y avait aussi, dans cette volonté-là de régionalisation de l'éducation, permettre l'accès à des jeunes d'avoir accès à des études universitaires, cette fois-ci, même si ce n'est pas tous les programmes, parce qu'évidemment, il y a des programmes qui sont plus difficiles à organiser, qui sont plus coûteux, qui sont demeurés dans les villes. Si on pense, par exemple, à une formation en médecine, bien, cette formation-là se donne seulement que dans les grands centres. Mais quand même, il y avait cette volonté-là de garder les jeunes dans leur région pour ne pas qu'ils quittent leur région et, évidemment, poursuivre leurs études dans le milieu urbain, puis qu'ils restent aussi dans le milieu urbain. Alors, ça, c'était... un gros morceau, je te dirais, de son travail auprès des acteurs politiques. Moi, ce qui m'a impressionné quand je disais ça aussi, c'est que M. Rocher a été très contesté à l'époque parce qu'évidemment, il voulait faire prendre un tournant aux Québécois qui pouvait faire peur, parce que, bon, évidemment, il fallait tasser le pouvoir religieux. Alors, il a fallu, évidemment, qu'il soit...
Ça prenait beaucoup de courage à l'époque pour faire ça, clairement.
Le politique aussi, parce que, évidemment, les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Puis, il y avait aussi une certaine résistance par rapport à l'élite. De façon surprenante, l'élite, à l'époque, l'élite québécoise, était réfractaire.
Tu trouves ça surprenant?
Bien, en fait, moi, ça m'a
surpris. En général, l'élite est toujours réfractaire à la démocratisation de leurs privilèges.
Mais quand même. Moi, j'aurais pensé que les gens auraient été contents de voir que la majorité de la population puisse se développer.
C'est une vision humaniste.
Alors, oui, peut-être. Alors, lui était considéré comme étant un leader positif. Alors, à l'intérieur de la commission, là, je parle toujours évidemment de la commission Parent, où il y a eu le rapport Parent par la suite. Alors, il était un leader positif, il a dû faire face à de la résistance. Il était reconnu pour ses capacités de médiation. Alors, il était en mesure de créer ou de soutenir des climats de collaboration et de trouver des solutions. Puis, évidemment, bien, il était perçu comme étant un idéateur. Parce qu'il y avait aussi les connaissances. Hein, parce
oui, oui, tout à fait.
Tantôt, dans le début de ma chronique, je faisais état de ses études. C'était aussi un acteur social. Alors, c'était quelqu'un qui amenait large, là, parce que ce n'est pas pour rien qu'on lui a consacré un cahier spécial. Il a été impliqué dans le mouvement syndical. Alors, évidemment, lui, ce qui l'intéressait beaucoup, c'est que les droits des personnes soit respecté et soit mis en évidence. De façon surprenante, en plus de s'impliquer comme enseignant, parce qu'il a enseigné dans certaines universités québécoises, il a fait partie des décisions importantes qui ont mis notre système d'éducation. Alors, il s'est impliqué beaucoup dans la vie publique. Alors, même aujourd'hui...
Oui, parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, on a dit qu'il convenait de fêter son 100e anniversaire, mais M. Grocher est toujours vivant.
Il est toujours vivant, c'est sûr.
Ah oui.
Mais même aujourd'hui, puis on a eu des invités qui touchaient la fameuse notre système à trois vitesses, M. Grocher avait un regard critique par rapport à ça aussi. Il se souvient que lui, il préconisait une école égalitaire. Alors... pour lui, ça va contre l'école égalitaire.
Absolument.
Il est très impliqué, malgré son âge. Je voudrais revenir, Patrick, avant de terminer, sur certains éléments qui a défendu. Il a d'abord défendu la gratuité. La gratuité scolaire, évidemment, ça nous vient un peu de lui et des acteurs qui ont gravité autour de sa vision. Lui pensait, puis il le pense encore, que l'éducation, c'est un service à laquelle tous les Québécois devraient avoir accès de façon gratuite. Alors, c'était quand même important à l'époque.
Vraiment.
Le rôle de l'école dans le développement d'une communauté. Alors, ça, c'est important. Ça nous vient un peu de lui, sa vision de faire en sorte que... Puis on le voit encore aujourd'hui, Patrick, quand il y a dans un village plus d'école, ben c'est
une perte pas juste scolaire.
C'est une perte sociale. Souvent, on dit que quand il n'y a plus d'école dans un village, ben, il n'y a plus de village.
Il n'y a plus d'âme.
Alors, c'est l'école qui est au centre. Et je terminerai avec son appui à la laïcité. Lui voyait la laïcité... pas de la manière qu'on l'a traité aujourd'hui. Lui, il voyait davantage que l'éducation n'appartient pas aux religieux. L'éducation appartient aux acteurs de la société, appartient aux gens qui sont neutres, les gens qui ne font pas de l'endoctrinement. Alors, lui a un peu instauré cette approche de déconfessionnaliser l'éducation et de la rendre un petit peu plus laïque. Puis bon, de là est née la déconfessionnalisation des commissions scolaires. Bon, ça a eu ces impacts-là. La manière qu'on a traité la laïcité aujourd'hui, c'est pas tout à fait la manière, même s'il est d'accord avec ça, c'était pas la manière qui préconisait. Écoutez, j'ai fait un petit tour rapide
Trop rapide, ben, en fait, Bernard, mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'invite les gens à aller lire ce cahier-là qui est disponible sur
Internet. Si tu permets, Patrick, tantôt, on va revenir avec la question de la semaine. Je voudrais juste te dire que ce qui m'a aussi beaucoup questionné dans mes lectures, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on permet à des intellectuels de guider les acteurs politiques dans les décisions qui sont prises?
C'est quasiment la question de la semaine.
Alors, je vais y revenir tout à l'heure, mais j'avais comme un doute quand je lisais ça, parce qu'on était vraiment à une époque d'effervescence intellectuelle.
C'est clair.
Dans laquelle on est peut-être un petit peu moins. Là. Alors, on se revoit tantôt.
Oui, oui, une toute petite pause musicale, puis la question de la semaine, parce que le temps file, malheureusement. Ben oui. Alors, on revient. Bernard est en train de fermer son journal. Vous l'entendez très bien, n'est-ce pas?
Oui, ben oui, excuse-moi, Patrick, tu m'as ramassé.
Et oui, c'est ça, hein, c'est passionnant tout ça, vraiment. Je trouve même les liens qu'on peut faire entre ce dont je parlais, l'essai dont je parlais, et l'œuvre de M. Guy Rocher, hein, sont des liens forts, sont des liens qui sont toujours d'actualité. Ce travail-là, créer dans le fond, ce système éducatif de toutes pièces avec une vision,
oui, hein,
une vision qui est importante. Alors, la question de la semaine que nous avons le goût de vous poser, c'est est-ce que le Québec manque de vision en éducation ou, on pourrait le dire positivement, est-ce que le Québec a encore de la vision en éducation?
Oui. Alors, moi, je te dirais, Patrick, avec ce que je viens de présenter à nos auditeurs et nos auditrices, qu'on a sûrement une vision, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est une vision qui est basée sur des valeurs éducatives? Alors, moi, je me demande tout le temps. Tu sais, Patrick, moi, j'ai passé ma carrière à l'éducation, puis toi aussi, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on prend des décisions qui sont liées beaucoup à l'acceptation sociale. Alors, on pense que si la majorité de la société est à l'aise avec une décision, bon, on pense que c'est une bonne décision. Est-ce que l'acceptabilité sociale, ce n'est pas un danger?
Disons qu'acceptabilité sociale et vision ne sont pas nécessairement deux termes qui se complètent.
Moi, pour répondre à ta questionnement, puis peut-être guider nos auditeurs et nos auditrices sur un élément de réponse, c'est que on a des zones de confort. Hein? Alors, si certaines valeurs viennent déranger notre confort, peut-être qu'on est plus réticent à adhérer à ces valeurs-là. Alors, on attendra les réponses.
C'est déjà tout, malheureusement, pour nous. Alors, et merci, pour vous.
Merci, Patrick.
Merci à tous d'avoir été à l'écoute. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. C'est un plaisir. Au revoir.
Bonne semaine. Au revoir.